Et avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, bien entendu, ils nous ont rejoints également. Simone Rovera est là pour l'Italie. Bonsoir, ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ça va Simone?
Très bien.
Va bene? Va bene? Va bene, ouais.
Je suis prêt.
Prêt, pour chaud.
Pronto.
Caldo. Comment tu dis?
Caldo.
Rien à voir. Ça veut dire chaud en, ouais, en portugais, en italien.
Pourquoi t'as chaud?
Non?
Bah, il est chaud, quoi.
J'ai dit, je suis chaud.
Pour la semaine qui va venir, d'accord.
Je crois que ça, j'étais même fait une alerte email sur la semaine qu'il y a.
Eh non, comme tu demandais. Fredo.
Fredo Cappuccino.
Fredo Armel.
Fredo Armer.
Armer. David Lortolari également est avec nous. Salut David.
Allô, Freund. Salut messieurs, salut à tous.
En attendant,
comment on dit chaud en allemand?
Warm.
Warm.
Ah oui,
bien sûr.
Warm up.
Warm up, bien sûr.
En attendant Fred Armel qui est pas encore là, Daniel, on va faire le tu préfères jingle.
Ce tu préfères n'a pas de sens.
Je me suis dit que ça allait pas faire long feu cette affaire-là.
Honnêtement, qui est le plus relou de nous deux dans le tu préfères?
Je veux en trouver un qui va me plaire.
Je refuse ce préfère.
Les tu préfères de ce soir, même.
Ma première question s'adresse à Pierre Ducrot. Et ce tu préfères sera très vicieux, il comprendra pourquoi.
Et ça, du coup, je sens, attends, avant que tu le dises, je sens que ça va parler des milieux de terrain défensifs.
Comment il s'appelait, machin vente de pute, tu te souviens ou pas?
C'était, t'as parlé comme lui. Oui,
celui qui était. Et ceux qui,
ça va parler du numéro 6.
Lundi dernier.
Ah, non, alors.
Vont également se souvenir et comprendre où est mon vice caché. Tu préfères l'attaque de Lyon ou l'attaque de Marseille?
Bah, je vais rester cohérent, Daniel, l'attaque de Lyon, bien sûr.
Tu préfères, vous préférez Neymar en 10 ou en 11? En haut à gauche, vous aurez compris. À l'ancienne, 11.
Bon, honnêtement, j'aime bien les deux, moi.
Oui, non, mais le but, c'est que
vous préférez choisir Neymar.
Donc,
bon,
c'est
10,
pas,
allez,
c'est
vas-y,
pas
en 10.
À moitié.
En 10, alors, en 10.
Ouais, j'ai dit 10 aussi.
Ok. La troisième s'adresse uniquement à Nicolas Villas, parce qu'il a besoin de faire un point avec sa communauté.
Sa communauté.
Tu préfères José Mourinho ou Georges Jésus?
Oh, bah, José Mourinho. Ah, putain, les deux peuvent pas se virer.
Ouais,
Mourinho, ça reste
Mourinho. Eh ouais, mais les gens doivent savoir quand même que tu es plus Porto que Benfica.
C'est quoi, toutes les semaines, il fait l'inverse, c'est même fait Porto. Mais je me suis jamais caché que ma famille était portiste.
Il serait temps que tu te fasses un peu insulter par les Benfica.
Tu sais qu'il y a des mecs de Porto la semaine dernière qui me sont tombés dessus, quand même.
Chers amis benficistes, parce que j'ai toujours un peu plus d'affection pour vous.
Il serait Nicolas Villas est un
que portiste. Le Twitter de Nico Villas explose.
Alors sache qu'il a explosé ce soir. Fred Hermel nous a rejoint. Salut Fredo.
Hola chicos.
Alors Fred Hermel, nos comptes Twitter respectifs ce soir ont explosé puisque tu as balancé un tweet sur lequel tu figures avec un maillot du Racing Club de Lens. Moi avec le maillot du LOS parce que j'ai perdu le pari avec le community manager. Eh bien voilà, je t'ai mis une branlée. Voilà.
Mais c'est-à-dire que bon déjà je trouve que c'est une énorme provocation de mettre le maillot du LOS alors que ce soir même tu parles avec un pur produit du Racing Club de Lens comme moi, donc j'ai voulu réagir. Bon, j'étais pas prêt, j'ai joué au con sur Twitter, j'ai perdu parce que je dis voilà, lequel des deux est plus sexy? J'étais pas douché, j'étais pas voilà. Donc, et ton côté barbe bien fournie, etc. Ça attire, ça c'est clair.
Voilà, bah écoute,
je dis pas ce que ça attire, mais ça attire.
Voilà, et arrête la moustache, mets-toi la barbe, mon Fredo.
Voilà,
on va commencer par.
Ça dépend, je pense qu'il veut pécho.
Bon, tu veux pêcher quoi d'ailleurs?
Lui, c'est celle qui veut.
Moi, ce que je peux, mon âge.
Un peu de tout.
Mais son style, c'est celle qui veut.
Mais si on va commencer
ce soir. Gardons un peu de temps pour parler foot.
On va commencer ce soir.
Non, justement.
Par l'Italie. Allez.
T'as un animal de compagnie, toi, ou pas?
Oui, un chat. Perry.
Et à quoi ça sert? Tu lui parles et tout?
Quoi?
Tu dis ça va, Perry? Ouais, t'es content.
J'ai fait jouer, j'ai lui lancé les jouets, les petits.
Et là,
le ballon.
Ouais,
et
ça. Tu le ramènes ou pas?
Non.
Tu sais que c'est la même
chose. Très bon.
Donc t'as pas autre chose à foutre que de jouer avec un chat dans la vie. T'as pas.
Et comment il va Perry? Comment il va Perry? On a pas demandé de news de Perry.
Alors, arrivé les deuxièmes. Hagrid. Il est arrivé à la maison jeudi.
Et comment
elle
l'a vu?
Perry est toujours là. Elle a vécu plutôt mal.
Ah, c'est vrai? T'as un deuxième chat?
Oui.
Hagrid,
mon Dieu, le bordel que ça doit être.
C'est magnifique.
Ça pisse partout. Oh là là.
Mais non, Hagrid, il y a la petite laitière là, ils vont là-bas.
On dira un petit peu
la laitière, puis ça pue la laitière.
Hagrid, c'est italien?
Tu fais pas gaffe, tu mets une pied dedans et tout là.
Pour le coup, c'est propre un chat. Ça fait dans la litière.
Mais les animaux, c'est fait pour la nature, c'est pas fait pour les appartements.
Eh ben moi, je suis d'accord avec toi. Alors Daniel, je suis 100% d'accord avec toi.
Mais dans la nature, je les adore, mais arrêtez de leur faire du mal, c'est bête.
Exactement.
Mais
il a raison Daniel, parce que moi qui étais élevé dans une ferme au milieu de cochons, de poules, de canards avec 4 vaches, à 5 ans j'allais chercher les vaches, et moi quand je vois par exemple à Madrid des Ulskis, tu vois, il fait 45 degrés à Madrid, des Ulskis dans les appartements de 40 mètres carrés,
des
chiens, les chiens,
il y en a qui font ça, je le sais,
il y en a. Mais dans oui. et ces gens-là te disent ah non non on adore les animaux, attends, t'as leurs animaux, fait 45 degrés à Madrid, attends.
Ouais, après, ouais. Après je ferme la parenthèse parce qu'on parle de foot, il y a eu plein de chats et des chiens abandonnés. Ça arrive tout l'été. Il y a des chats et des chiens qui personne
veut. Quel est le rapport?
Qui sont blessés, qui ont des problèmes, qui ont...
Quel est le rapport?
Ah, t'as adopté un chat qui est abandonné.
Non, t'as juste demandé de pas en mettre chez toi. On a pas envie de l'abandonner.
Bah, Daniel, elles sont plus sauves dans la rue, au milieu de rien. Avec les voitures.
Oui, non, là, il y a des chats blessés, personne veut.
Tu pourras nous dire pourquoi, Di Francesco va être abandonné au bord de la route bientôt.
Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on est en train de bouffer ton temps de parole. Je donne quelques résultats quand même de la cinquième journée de Serie A. La Juve s'est imposée 2-0 à Frosinone. Deux partout entre Milan et l'Atalanta. La Samp s'est inclinée 1-0 face à l'Inter. La Lazio, qui est dans le groupe de l'OM en Ligue Europa, a battu le Genoa 4-1. La Fiorentina a battu Spal 3-0. Et le Napoli a battu le Toro 3-1. La Roma, qui est pas bien du tout au classement, qui avait perdu face au Real Madrid en Ligue des Champions, 5 points après 5 journées. Alors toi, tu veux pas qu'on s'en prenne à Di Francesco, justement?
Oui, parce que s'il y a des coupables, il y en a plusieurs dans toute cette histoire de ce début de saison raté par la Roma.
Une victoire seulement.
Ben, une victoire au premier match de la saison face à Torino. Après, il arrivait que des matchs nuls et des défaites. Cette semaine, ils ont perdu 2-0 face à Bologne. Bologne en avait... Je n'avais pas encore marqué un but cette saison. J'étais à 0 point, 0 but marqué. Et sont arrivés à marquer 2 buts face à la Roma. C'est une situation catastrophique. La vraie faute de Di Francesco dans toute cette histoire a été probablement de cet été, quand il voyait que petit à petit, Monchi est en train de vendre à Lisonne, de vendre Nainggolan, après Strootman, qu'il n'y avait pas des joueurs avec un gros charisme qui arrivaient. Oui, Nzonzi est arrivé en fin de mercato, mais la saison était déjà dans une situation compliquée. Les vrais soucis de Di Francesco, la vraie faute de Di Francesco était de ne s'est pas rébellé. Peut-être qu'il ne pouvait pas. Il venait de prolonger son contrat en juillet. Et donc, il a accepté tout. Cette destruction totale de cette Roma qui arrivait en demi-finale des Ligues des Champions, parce que c'est vrai qu'il y a encore plusieurs joueurs de la saison dernière, mais quand tu perds celui qui est ta tête, Strootman, ton cœur, tes muscles, Nainggolan, et tu perds l'homme plus décisif en Ligue des Champions qui était Alisson, c'est sûr que tu as perdu quelque chose. Et Di Francesco n'a rien dit, a dit ok, on va recommencer avec un autre cycle, on recommence à zéro. Peut-être il s'est pas rendu compte, il a pas voulu se rendre compte que la Roma est en train de perdre vraiment toute sa force.
Ou il n'a pas eu le choix.
Ou il n'a pas eu les choix. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, s'il y a un coupable, c'est qui, devant, à la tête de cette club, a décidé de faire toujours de business. J'ai regardé un peu, depuis son arrivée, je parle du président Pallotta, environ il y a en moyenne des 10 joueurs qui arrivent chaque saison. Ça veut dire qu'il y a un trading de base qui est fait, ok, pour rester dans l'élite, parce que tu es obligé de vendre.
Mais les Américains, quand ils viennent dans les clubs, mais tu crois qu'ils viennent pour quoi?
Bien sûr.
Qu'ils viennent pour se régaler.
Bien sûr.
Ils viennent pour ça.
Après, Daniel Pallotta est arrivé en 2011. En 2012, il a dit en cinq ans, je veux gagner les titres. Les Scudetto, il a encore dit
pour les gogos, ça.
Encore. Bien sûr. Mais alors, pour l'instant, le projet n'est pas si. Sûrement n'est pas gagnante. Après, oui, t'as une demi-finale de Ligue des Champions. Bah, mais aujourd'hui.
Il a rentré du cash quand même, non?
Bah, il a rentré plein du cash. Mais est-ce que, aujourd'hui.
Et s'il prend Monchi, c'est pour faire rentrer du cash, parce que le mec est connu. Bien pour sûr. Valoriser les joueurs.
Et pour les vendre.
Bah alors.
C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, Di Francesco.
Les supporters de la Roma qui vont être un peu énervés, mais en même temps, comme ils ont vécu leur plus grand kiff depuis des années l'année dernière avec cette demi et ce match contre le Barça.
Oui, mais
ça peut peut-être passer.
Mais la Roma est quand même la deuxième
équipe. Un licenciement de coach, ça va suffire à les calmer.
C'est la deuxième équipe qui a plus investi quand même cet été en Italie. La Roma
a dépensé 150 millions d'euros.
Mais c'est pour ça que Di Francesco va prendre la porte. Malheureusement.
Parce qu'il n'est pas encore réussi à trouver une solution. Il a changé des systèmes de jeu, il a changé, chaque fois il change des milieux de terrain, il n'a pas encore décidé de jouer avec deux milieux relayeurs qui se projettent vers l'avant, comme Cristante Pellegrini, et une seule derrière, qui soit De Rossi et Nzonzi, pour chercher d'aller vers l'avant.
Ils sont jeunes quand même, Cristante.
Voilà, mais c'est ça. Bah, les traduits, c'est ça. Plus vert, il est jeune, Cristante est jeune, Pellegrini est arrivé la saison dernière, mais il est jeune, Senikander, arrivé encore la semaine dernière, il est quand même jeune. Les seuls deux joueurs d'expérience qui sont arrivés sont Pastore, qui se reste en Paris, peut-être incompréhensible si on voit les paramètres de la Roma, et Nzonzi, parce que t'avais besoin de quelqu'un après le départ de Strootman et Nainggolan.
Ouais, mais il a accepté les départs quand t'as un président qui réinvestit 150 millions, tu peux accepter qu'il y ait des départs et puis tu reconstruis avec
mais
ça.
Mais tu répares
150
zéro.
Millions. Oui, mais t'as des
bons joueurs. T'oublies la demi-finale de Ligue des Champions
qui arrive quand même.
T'oublies tout de la saison dernière. Ça. Alors, autre équipe qui a pas fait un bon résultat aussi, c'est Milan. Alors, hier nul face à l'Atalanta, 5 points en 4 matchs. Alors, ils ont un match en moins par rapport aux autres, les Milanais. Pourquoi ils avancent pas les Milanais non plus? Ils ont galéré déjà face à Dudelange en Ligue Europa.
Alors, ils ont une équipe qui est moyenne.
Les pas et l'âme, mais ils avancent. C'est-à-dire, c'est une équipe qui n'a pas changé beaucoup, à la différence de la Roma. À Roma, on n'a pas dit samedi, il y a les derbies. Si Di Francesco perd les derbies, et c'est très probable que sa saison termine.
Avec le derby, là, ça rigole pas.
Gattuso est en train de donner un jeu à cette Milan.
Il fait vraiment du bon boulot, toi, tu trouves?
Moi, je trouve que le Milan joue bien. Après, c'est une équipe.
Ça fait longtemps que j'entends dire ça, quand même.
Bah, parce que c'est vrai. Mais les problèmes.
Ouais, mais il n'y a pas de
résultats, quoi.
Ouais. Ce n'est pas des résultats. C'est début de saison. On se rappelle, les parcours de Gattuso, c'est de faire troisième sur la deuxième partie des saisons, c'est-à-dire depuis qu'il a pris les mains Milan en semaine, il a fait un bon travail. Cette année, il est en train encore d'y trouver certaines situations. Il doit favoriser Higuain, qui rentre toujours plus dans ses systèmes de jeu. Il est le finalisateur. C'est celui qui a fait marquer, il a marqué 3 buts et une passe décisive sur les 4 derniers buts de Milan. C'est-à-dire, il est protagoniste. Les problèmes, c'est que Milan a des amnésies. C'est une équipe qui joue bien, fait des phases de jeu de 30-40 minutes extraordinaires. Et après, souvent, surtout en fin de match, en deuxième période, on les perd totalement. C'est comme s'il n'y avait pas cette capacité de gérer les matchs dans la difficulté. C'est une équipe qui ne sait pas souffrir. La chose incroyable qu'avec Gattuso, on disait, ils vont être capables de souffrir.
C'est un paradoxe.
Et par contre, on joue bien, côté Milan. Il y a des phases de jeu vraiment très très belles. Mais il n'y a pas encore cette capacité de gérer les fins de match. Pourquoi? Parce que c'est une équipe avec 11 titulaires de très bonne qualité. Pour l'instant, les joueurs qui sont remplaçants sont vraiment très très loin du valeur
C'est qui les hommes forts de Milan? Higuain, on connaît, mais alors, les gens qui nous écoutent, Milan aujourd'hui, c'est plus tellement une équipe qu'on regarde. C'est qui les hommes forts?
Si Lucas Biglia est dans une bonne soirée, Milan joue bien. C'est un joueur de 31 ans qui a eu plein de problèmes physiques, mais c'est encore la pièce maîtresse. Après, il y a l'autre joueur clé pour moi, c'est Bonaventura, qui est un milieu de terrain qui naît un peu comme numéro 10 ou trequartiste, attaquant excentré. Aujourd'hui, il joue au milieu de terrain à côté de Biglia, et c'est vraiment le joueur qui sait faire les transitions, qui fait amener les ballons vers l'avant. Et après, bon, Higuain, tout le monde le connaît, je pense qu'il n'y a pas besoin. Çalhanoğlu, je le trouve un bon joueur, mais pas très constante. Souza,
ça c'est sûr.
C'est pas les Souza de la saison dernière, mais c'est un joueur des couloirs offensif très intéressant. Rodriguez, latéral gauche, c'était connu surtout parce qu'à un certain moment était suivi par les Paris Saint-Germain. Et je trouve que derrière, s'il y a un avenir, sont Caldar et Romagnoli, les deux sont considérés un peu comme l'avenir de la sélection italienne. Aujourd'hui, Caldar ne joue pas trop parce qu'il n'a pas encore appris, selon Gattuso, certains mécanismes défensifs. Et donc, il y a Musacchio et Romagnoli.
Très vite, on va se faire ça maintenant le lundi également. Ton cador et ton bidon du week-end en Italie.
Je commence avec les bidons. C'est étrange, mais malheureusement pour l'instant, les bidons, c'est Mauro Icardi, qui n'a pas encore marqué un but en Serie A, qui a fait une chose extraordinaire.
Il a fait son truc en Ligue des Champions.
Il a fait une chose extraordinaire en Ligue des Champions. Mais sur ce week-end, encore une fois, il est vraiment pas réussi à amener quelque chose à l'Inter.
C'est étonnant.
Qui a gagné. La saison dernière, il était presque une dopage, le but d'Icardi. C'est-à-dire, tout partait 1-0. Aujourd'hui, il y a l'Inter normal qui se met sous
MPG.
Non, mais c'est vrai, c'était vraiment la valise.
La
valise pour les adversaires. Aujourd'hui, c'est pas les leaders. Les cadors, j'aurais voulu me parler de Gervinho qui fait un but extraordinaire, mais il y a un joueur qui est en train de faire dépasser une dimension à la Juve, et je pense qu'il faut aussi remercier Cristiano Ronaldo pour ça.
Bernardes.
C'est Federico Bernardes.
Ah, mais moi, ça fait longtemps que j'adore ce joueur, et son éclosion, je l'attendais.
Il a pas des stats de dingue, pourtant, ce mec-là en carrière.
C'est un très beau joueur.
Non, mais il naît comme latéral, dans une 3-5-2, pour jouer un peu, il faisait vraiment tous les couloirs gauche. Après, il est en train
d'échouer. Avec les espoirs, il jouait plus haut, genre, trequartiste,
mais avec, avec la Fiorentina, il jouait 3-5-2. Donc il a commencé comme ça. Après, on peut dire, a commencé à haut niveau comme ça. Il était un joueur numéro 10, c'est toujours tétralentour.
Ouais, c'est ça.
Ce qui a changé cet été, surtout, il a pris énormément de force physique. Donc aujourd'hui, c'est pas plus l'attaquant qui tout le bouscule et tombe, c'est quelqu'un qui est allégré, utilise aussi au niveau de terrain.
Oui, on sentait qu'il était léger. Mais lui aussi, il doit pouvoir relancer la sélection.
Il a pris ça cet été.
il a travaillé beaucoup de cet été. D'accord. Il a travaillé en fin
il
de saison
dernière. Il a marqué hier,
d'ailleurs, hier. Il a marqué hier. Il avait marqué les buts décisifs face au Kievo.
Et il joue à trois devant la Juve. Quoi, alors, il joue avec Ronaldo, Mandzukic chez lui?
Ça dépend. Il a joué plusieurs fois dans cette configuration. Il y a toujours les Dybala qui n'y jouent pas. Mais quand j'ai dit Allegri,
ça, c'est incroyable. Dybala qui joue pas, ça,
comme
c'est...
milieu de terrain relayeur. Ça peut arriver parce
que le mettre dans un milieu à trois.
Il a tellement aujourd'hui des forces physiques d'impact, il peut se projeter vers l'avant et faire arriver les ballons dans la
surface. Ils ont un sacré effectif la Juve, hein. Ouais. Tu vois même sur le banc les mecs qu'ils ont, c'est costaud.
Merci Simonet. Ciao. Dans quelques instants.
Il joue pas là mon Uruguayen que j'aime beaucoup là, comment il s'appelle
Betancourt.
Le fils de Liliane, oui Betancourt.
Il a joué titulaire pour la première fois cette semaine. Mais
j'aime beaucoup Pjanic,
Kedira, Emre Can, Matuidi.
Allez, on file en Espagne dans quelques instants avec Fred Hermel. On vous attend bien entendu sur l'application Direct Studio pour commenter avec nous cet after. A tout de suite. Accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, nos drôles de dames sont là et Julien Laurent sera avec nous également. Sachez qu'il est justement au trophée The Best de la FIFA. Voilà les trophées au cours desquels d'ailleurs Didier Deschamps a été élu entraîneur de l'année. Et qui d'ailleurs? Et Modric, joueur de l'année.
Ah, alors, bien.
C'est quand même important aussi. Tiens, ah oui. Sache Daniel que ton appel à tous les benfiquistes pour qu'ils viennent m'insulter fonctionne sur les réseaux sociaux. Donc, l'after se porte bien au niveau des réseaux sociaux.
J'ai juste révélé quelque chose. Tu cherchais à cacher depuis des années.
N'importe quoi.
En plus, je suis sportiste.
Parce que, non, ma famille est plus sportiste que benfiquiste.
Enfin,
et je l'étais quand j'étais gamin.
Plus, c'est
à la bando, la famille. Hein,
en plus, il vend sa famille.
Ouais, non, mais je l'ai pas
assumé.
Moi, je l'ai vu le canapé bleu et blanc à la maison.
Tout à fait, etc. Je ne pensais pas qu'on en arriverait à découvrir.
Attends,
autant de
choses
sur Nicolas Villas.
Il est magnifique.
Ah, merci.
Il est magnifique. Après,
Madame Villas va gueuler.
C'est pas le bleu avoir cousu les maillots de Porto de plus, c'est un peu dommage.
Et tiens, transition toute trouvée. Le temps de vous donner un résultat. Un match qui vient de s'achever. Match très important au Portugal entre Braga et le Sporting. Braga s'est imposé 1-0. Et Braga est co-leader de Liga portugaise.
C'est beau, ça.
Avec le Benfica. Et il compte maintenant 3 points d'avance sur le Sporting, justement.
Quelle journée là-bas?
Cinquième journée, ouais. Allez, on peut enfiler en Espagne avec Fred Hermel.
D'un système qu'on connaît qui s'appelle 3-3-3.
C'est quoi ça, Fred?
Un dérapage.
Fred?
Le 3-3-3.
Une glissade.
Bah, il est plus là, Fred, ou quoi?
Mais si, je suis là.
Ah bon, bravo,
c'était quoi ce 3-3-3?
3-3-3 plus Messi.
Bah, c'est quand il y a un expulsé.
Real, ils ont pas besoin d'être 11 au Real pour gagner.
Ah ouais, c'est ça.
Alors justement, on va un petit peu parler d'arbitrage de VAR notamment avec toi.
Ouais, parce que
voilà, alors le Real qui s'est imposé 1-0 face à l'Espagnol, le Barça qui a fait match nul 2-2 face à Girona, on a deux équipes qui sont leaders. Et alors le VAR fait beaucoup parler, notamment alors ça a beaucoup fait la une de la presse en Espagne ce week-end, que ce soit AS avant-hier et aujourd'hui plutôt la presse catalane également.
Oui, alors il faut expliquer que alors on va pas refaire le débat sur le VAR, c'est pas la question, il est là, on fait avec. Simplement, aujourd'hui, je fais pas d'avis tranché, je fais un constat, le VAR a une influence énorme sur les résultats des matchs en Espagne. Voilà. Est-ce que ça voulait dire qu'auparavant les arbitres n'étaient pas bons? On s'est souvent plaint quand même, hein, que les arbitres n'étaient pas ce qu'il y avait de mieux en Espagne et qu'ils étaient souvent sous influence, que souvent ils étaient un peu cow-boys. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine humilité qui est en train de s'installer grâce au VAR. En tout cas, sur ce qui s'est passé ce week-end, sans le VAR, peut-être que le Barça aurait ce soir 4 points d'avance sur le Real. Avec le VAR, ils ont exactement le même nombre de points. Pourquoi? Parce que le match de samedi soir, le Real contre l'Espagnol de Barcelone, le but 1-0 avait d'abord été refusé, but d'Asensio, par l'arbitre. Il a été corrigé par le VAR, le but était accordé. Le Real a gagné 1-0 en souffrant d'ailleurs, parce qu'en deuxième période, les joueurs d'Espagnol qui font une bonne saison, les ont quand même bien titillés et on sentait que le Real avait quand même un match de plus dans la semaine dans les jambes, même si ça avait été assez simple face à la Roma. Et le lendemain, hier soir, le Barça 1-0 contre Gérone, c'était tranquille. Et là, le VAR, après consultation du VAR, l'arbitre expulse l'anglais. Alors j'étais déçu pour l'anglais parce que c'est un mec que j'aime bien, hein, l'ancien joueur de Séville, Clément Langlais, qui est arrivé au Barça cette saison. Comme Umtiti avait expulsé, vous vous en souvenez, contre le PSV, double carton jaune, enfin double avertissement, expulsion un peu ridicule, et que voilà, l'idée, l'anglais avait pas encore été titulaire. Il était logique que Valverde, l'entraîneur du Barça, fasse jouer l'anglais justement pour qu'il donne un peu de minutes parce qu'il va devoir jouer à Tottenham dans 10 jours. Bref, l'anglais met un coup de coude incompréhensible dans la tête d'un adversaire. Je pense que vous avez vu, dû voir l'image sur les réseaux sociaux.
Ouais. Volontaire ou pas volontaire?
En tout cas, mais il détruit la tête, quoi. Enfin voilà. Donc après consultation du VAR.
Il peut détruire involontairement.
Oui, oui. Mais enfin, en tout cas, là, il y a un truc. Oui, oui. Aussi, tu peux prendre ta bagnole, tuer quelqu'un sans faire exprès. Hein. Voilà, c'est involontaire. Ouais. Mais sauf que le résultat, il est là. Donc le VAR a expulsé Clément Lenglet. Le Barça s'est retrouvé à 10. Et le Barça qui avait, en plus, il faisait très très chaud et très lourd hier soir à Barcelone. Parce qu'en Espagne, il y a encore une vague de chaleur là qui est assez dure à supporter. Et donc à 10 contre 11, quand tu dois jouer plus d'une mi-temps comme ça, face à une équipe de Gérone bien organisée, on se souvient, elle avait battu le Real en dernier 2-1.
Bon, bref, etc. Le Barça a pas gagné, quoi.
Le Barça a pas gagné.
Et ça s'équilibre, Fred, sur une saison, ça va s'équilibrer.
Les arbitres, bien sûr, ça va s'équilibrer.
Vous voulez dire que jusque-là, les arbitres avantageaient le Barça, en fait?
Non, je dis pas ça. Je ne dis pas ça. Il n'y a pas d'avis. Je dis simplement, bien sûr, qu'à terme, ça va s'équilibrer.
Je comprends pas, Fred.
Mais ce week-end, il devrait y avoir 4 points d'avance sans le VAR. Il y a 0 point de retard, 0 point de différence entre les deux équipes.
Ou sans le VAR, sur d'autres matchs, ça serait passé autrement.
Alors, c'est sûr.
On fait
une émission tous les lundis. Donc moi je te parle pas de ce qui va se passer dans 4 mois. Je te parle de ce qui s'est passé ce week-end.
Mais ça me fait penser à ceux qui font les classements absurdes avec ou sans erreur d'arbitrage et qui refont les classements. Ça se fait partout.
Sauf que c'est une réalité.
Bêtise sans nom de
je
faire
suis
ça,
là.
Parce que tu sais pas quand un événement surgit dans un match, à quel moment il surgit,
mais
quelle
entendu,
influence il a sur le reste.
Je peux te dire que
c'est pas factuel.
Le Barça,
mais quand un événement arrive à la 10e minute, tu sais pas l'évolution du match. Si ça arrive à la 10e, à la 30e, à la 50e, un carton ou un but.
L'expulsion de l'Anglais en première période grâce au VAR, oui, elle est hyper importante, elle change le cours du match. Le Barça menait 1-0, il a été mené 2-1 et ils finissent 2-2.
Tu ne sais jamais ce qui change réellement le cours d'un match de foot.
Non mais attends,
c'est
attends.
Un sport de
non.
continuité, ça n'est pas un sport de phase arrêtée.
Fred,
ce que vous dites, ça défie le bon sens.
Fred, juste, je pense que ce que veut dire Fred.
Et on perd du temps, j'aimerais bien qu'on parle
plus. Je pense que ce que veut dire Fred, au fait, c'est que il y a des décisions qui ont été validées ou invalidées par le VAR, et si le VAR n'avait pas été là, ça aurait changé des choses. C'est juste ça.
On ne peut pas savoir
l'autre chose que je vais t'expliquer.
Ça arrive dans le match et
l'autre chose
ça.
Que je vais t'expliquer, Daniel, s'il te plaît, c'est que les arbitres espagnols, qui sont en général des cowboys, des shérifs,
et qui visiblement étaient achetés par la Catalogne.
Attends, écoute, arrête. Qui en général, ce sont ce qu'on appelle ici un peu des chulos, un peu ils les ramènent les mecs. Là
les
aujourd'hui, le comportement, le comportement des arbitres a changé en Espagne depuis qu'il y a le VAR. Ils font moins les crâneurs parce que quand ils faisaient des erreurs, ils ne reconnaissaient jamais leurs erreurs. Aujourd'hui, avec le VAR, ils sont un petit peu plus modestes, un petit peu moins un peu de leur personne, un petit peu moins dictatoriaux sur le VAR.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que
revenir un an
en arrière avec les débats qu'on a eu avec l'Allemagne aussi, ça avait fait énormément parler aussi en début de saison.
Ça continue aussi.
C'est inévitable en fait. C'est inévitable.
Non mais moi c'est pas un débat les mecs, c'est un constat. C'est un constat que je fais. Je ne veux pas lancer de débat.
Rejoindre Fred sur le fait que ça change effectivement certaines mentalités, celles des arbitres et celles des joueurs aussi dans l'action parce que tu
ça.
J'ai dit je veux bien rejoindre Fred sur le fait que ça change les mentalités des arbitres dans leur rapport avec les joueurs parce qu'ils savent qu'il y a les images derrière quand même à un moment donné.
Exactement.
Et également chez les joueurs. Ce que je retiens de l'intervention de Fred, c'est que ça m'a juste donné envie de manger des churros.
Eh ben mangez pour aller dans ton sens.
Il n'y a pas un bon after du lundi qui ne parle pas de bouffe. Ça n'existe pas.
Non mais tu sais le chocolat épais où tu trembles le churros.
Ouais, je sais. Le churros. Non mais la différence entre chulos et churros, c'est entre un L et deux R. Tu vois, excuse-moi.
Oui.
C'est pas...
Ah mais
c'est ça. Non mais Pierre, pour aller dans ton sens, parce que c'est vraiment intéressant. Le comportement des joueurs. Le
comportement.
Vas-y Fred, je t'écoute. T'occupe pas
le comportement des joueurs est en train d'évoluer en Espagne aussi, parce qu'on sait que les joueurs sont souvent rebelles aussi et qu'ils ont une manière quand ils sont expulsés de toujours contester. Là, on a vu une évolution depuis le début de la saison. Il y a de moins en moins de réclamations quand un joueur est expulsé parce qu'il sait que 9
fois sur 10, effectivement, la vidéo est assez claire. Ça va arriver qu'il y ait des doutes encore sur une vidéo, mais 9 fois sur 10, effectivement.
Je ne fais pas de jugement de valeur. Je dis simplement que le football espagnol est en train d'être influencé par le VAR.
Il moufte plus, le mec.
Oh, qu'est-ce que tu fais là? La lunette des shots.
Il y a le VAR.
La lunette des shots, c'est terminé. Ok, ça va, excuse-moi, chérie. Alors, Fredo, tu voulais également parler du nouveau Bernabéu. Alors, moi, je t'avoue que j'ai lu les déclarations du président Florentino Pérez, parce qu'il y a une assemblée générale, je crois, à Madrid.
Oui, ben oui, parce que c'est un club qui appartient à ses membres, à ses 87 000 membres. Donc il y a les 1200 membres qui s'appellent les compromissarios, c'est-à-dire les représentants des socios, élus par les socios, qui votent tous les ans à l'assemblée générale extraordinaire pour voter les comptes, décider de la politique, voilà. Et là, voter le nouveau stade, c'est-à-dire pas un nouveau, c'est-à-dire qu'on le Real va rénover son stade, va en faire un stade du futur, et les socios ont approuvé un crédit de 575 millions d'euros sur 35 ans. Alors ça peut faire énorme comme ça, mais en fait ça ne représentera que 25 millions par an, c'est-à-dire comme si le Real achetait un mauvais défenseur central, parce qu'en ce moment 25 000 euros c'est un mauvais défenseur central sur le marché européen, c'est-à-dire que le stade qui va être un stade du futur couvert, mais rétractable, voilà, les socios ont voté à la majorité le fait que le club puisse s'endetter sur 35 ans pour cela, et ça va représenter 4% des recettes annuelles du Real Madrid, c'est-à-dire que le Real avoir un super stade pour pas grand chose. Et ce qui est assez rigolo, alors c'est vrai que ça fait bizarre quand on sait qu'il y a tant de clubs où il y a une personne qui décide, bah là il y a 87 000 personnes qui décident, et donc c'est assez rigolo.
Voilà, les images d'ailleurs du nouveau stade sur RMC Sport News, ça a de la gueule quand même.
Ouais, ça a de la gueule, ouais. Et puis ils veulent faire un peu, on discutait avec des amis aujourd'hui, un peu comme en Allemagne, tu sais, David, où les stades deviennent des lieux de vie, tu sais, où les gens viennent passer la journée, il y aura des trucs pour les gamins, plein de restos, etc. Là en ce moment, il y a 2-3 restos, mais c'est pas encore.
J'ai pas suivi, Fred. C'est au même endroit que le stade.
Au même endroit. Au même endroit, ça va durer 3 ans et demi, et il y aura pas de match reporté, rien du tout. Ça va être fait de telle manière que le jeu ne soit pas impacté par cela. Et le Real Madrid qui a présenté ses comptes et qui, pour la première fois de son histoire, a une dette négative. C'est-à-dire que non seulement le Real ne doit 0 centime à tout le monde. Mais négatif, c'est-à-dire que non seulement le Real a doit 0 argent, mais en plus, on doit au Real 107 millions d'euros.
Voilà, alors Fred, il nous reste très peu de temps, il nous reste 1 minute 30 il fallait que tu nous fasses ton cador et ton bidon. Alors le cador, tu vas nous en faire deux, les marques que tu voulais mettre dedans, et t'en avais un autre je crois aussi.
Non mais oui, Lemar, parce que franchement, on aura l'occasion d'en reparler, mais l'intégration de Lemar à l'Atlético, il a provoqué le premier but à Retafe, il a marqué le deuxième. Voilà, c'était son premier but officiel avec l'Atlético. Franchement, c'est hallucinant ce qu'est en train de faire ce mec. 7 matchs, 5 fois titulaire, 2 fois remplaçant en rentrant en deuxième période. Moi, je me souviens que Griezmann lui-même, alors qu'il vivait en Espagne, alors qu'il parlait la langue, avait mis 6 mois avant de se faire un trou dans le 11 de Simeone. Et là, Lemar, c'est une intégration express de quasiment du jamais vu à l'Atlético, quoi. C'est hallucinant ce qui se passe. Donc un cador, et l'autre cador, c'est quand même Ben Yedder. Vous savez, on l'avait oublié, lui.
C'est normal.
Surtout, on avait l'impression qu'il n'était pas dans les petits papiers au début de la saison. Je me trompe.
Mais il n'était pas. Tu te trompes pas du tout. Tu vois quand tu veux. il était troisième dans la hiérarchie des gardiens. Donc des attaquants,
méchant, t'as été puni immédiatement.
Voilà, c'est exactement par le petit Jésus. Et et là, il a marqué 2 buts en Ligue Europa jeudi. Il a mis un triplé et une passe décisive, le triplé en une seule mi-temps à Levante ce week-end. Et puis qu'est-ce qu'il y a mercredi soir? Il y a un certain Séville Real qui est l'une des grosses affiches. Et là, Ben Yedder saura s'il est titulaire. Après-demain, ouais. S'il est titulaire ou pas, s'il est vraiment revenu en grâce auprès de Pablo Machín, l'ancien entraîneur de Gérone, qui est aujourd'hui le dirigeant de l'entraîneur de Séville.
C'était quoi ? On n'a plus le temps pour le bidon. C'était le président de la Fédé Rubiales parce que
ça prend une seconde.
Alors vite.
Il se plaint parce qu'il fait chaud, parce que en Espagne on joue des matchs en fin septembre à midi à 13h ou à 20h. Ben si, un post fraîcheur, mais il fait des histoires avec cause de ça. Mais enfin, franchement, fin septembre, on est quand même obligé de jouer des matchs parfois à 20h. Quoi. On peut pas les jouer à 1h du matin. Séville à 20h, oui, parfois il fait chaud. Et Séville, pour qu'il fasse froid, enfin qu'il fasse pas trop chaud, il faut le jouer à 1h ou 2h du matin.
Il y a une différence entre midi et 20h, Fred, quand même.
Oui, mais non, mais à un moment, fin septembre, t'es quand même obligé de mettre tes matchs. Tu peux pas mettre tous tes matchs le soir.
Okay.
Tu vois, il y a des intérêts de télé, etc. Tu dois jouer des matchs à midi. Au mois d'août, on ne joue pas de matchs à midi, mais fin septembre, on est quand même obligé de programmer des matchs à midi. Et donc le président de la Fédé se bat contre la Liga.
Je vais faire un cours de météo sur l'Espagne, en fait.
Il est en train de chercher la polémique, surtout. Tu n'as pas besoin de publicité.
Bien sûr. Bon. Merci beaucoup, Fredo. Et nous maintenant. Allemagne, David Ortolari. Je rappelle que Lorenzo porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Ce qui est le cas ce soir d'ailleurs.
Non, pas du tout, c'est bavarois.
Cette veste tyrolienne.
C'est dégueulasse.
Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est la fête de la bière. Donc d'une façon
générale. C'est là en ce moment là.
J'ai proposé de venir en culotte de peau.
Déjà, ça a commencé, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps. C'est quatre fois par an la fête de la bière.
Non, c'est une petite patte de velours. Non,
c'est bavarois. C'est la vraie veste pour la fête de la bière. Non, mais c'est vrai, elle a commencé.
Avec les boutons en bois. Les boutons en bois.
Un peu moins.
Il y a les boutons en bois si on peut zoomer.
C'est du Scovandelli.
Oui, c'est boutons en bois. C'est boutons en bois. La veste tyrolienne, c'est boutons en bois.
Ah ouais.
Ça c'est le même bois avec lequel il a pris font les chalets.
Bon, faut beaucoup de boutons pour faire un chalet.
Tu connais la différence entre un chalet suisse et un 69?
Non, attends, je la sens pas, ça. C'est tellement nul, c'est con. De choc.
Ouais.
Ah oui. En Bundesliga ce week-end, Schalke Bayern, victoire 2-0 des Bavarois, et choc entre deux équipes qui sont également en Ligue des Champions et qui sont adversaires de clubs français, Hoffenheim qui est dans le groupe de l'OL, Dortmund dans le groupe de Monaco. Un partout entre ces deux équipes. Tiens, parlons de ce match justement, de ce choc entre Hoffenheim et Dortmund.
Mini parenthèse, Simone n'a pas compris la blague, mais continue, non, mais David.
Tu t'as parlé vite, Daniel. Oh, mais je le ferai après.
Non, il fallait c'est très con, plus ça sert à rien.
Il va te la traduire en italien. Est-ce que c'était un gros match? Alors, question con, mais le Bayern survol machin, est-ce que ce match-là donne l'impression qu'ils peuvent aller titiller le Bayern?
Alors, Dortmund-Hoffenheim, c'est bien effectivement de commencer par là, parce que l'an dernier, le Schalke-Bayern aurait été le top spiel. Or là, Schalke est dernier, on va y revenir dans un instant, mais Dortmund-Hoffenheim, ce sont les deux équipes qu'on pouvait peut-être considérer, l'une normale, parce que c'est un cadeau européen quand même, Dortmund, et l'autre, de façon un peu plus surprenante, Hoffenheim, qu'on pouvait considérer comme des challengers cette saison du Bayern. Dortmund, pour résumer, pour faire la synthèse, c'est très stable en défense. Favre a trouvé son système, il a son Burki dans les buts, il a ses défenseurs, il a sa défense centrale, il a ses trentenaires, Piszczek et Schmelzer en défense. La défense, ça fonctionne. Avec Witzel aussi en milieu de terrain, c'est très bien. Avec Delaney aussi, le Danois, ça c'est bon. Mais devant, Favre n'a absolument pas encore trouvé la formule. Est-ce que ce sera Paco Alcácer qui va s'installer? Est-ce que ce sera un joueur moins connu en attaque comme Maximilian Philippe, comme quelqu'un d'autre, comme Royce éventuellement? Ça, il ne sait pas. Il continue de tâtonner et ça se ressent dans les résultats.
Tu avais dit ça la semaine dernière.
Oui, mais justement, parce que l'idée, c'est. T'as pas écouté le.
Même avis tranché la semaine dernière.
Mais non, pas du tout. Mais ça va pas ou quoi?
Il s'est
interrogé. Non, mais à un moment, quand tu tâtonnes, après, il faut conclure.
Ah ben, en même temps, il y a eu qu'une semaine de passé. Tu peux pas non plus tout trouver en une semaine. Hein.
Oui, puis il y a eu aussi un match de Coupe d'Europe. Voilà, mais Dortmund va être un bon adversaire cette saison dans le championnat, mais ne sera pas.
Tu crois vraiment que ça va être un rival du Bayern?
Non, je suis en train de te dire. C'est ce que Nico vient de dire. Non, et Hoffenheim non plus. Pourquoi? Pour d'autres raisons. Parce que Hoffenheim, lui, a un effectif beaucoup plus réduit. Va être obligé d'engager énormément de forces en Coupe d'Europe. C'est une première historique pour Hoffenheim d'être en Ligue des Champions. On l'a vu cette semaine, ils se faisaient une joie d'avoir gagné leur premier point en Ligue des Champions.
Contre le Shakhtar.
Contre Shakhtar. D'ailleurs, alors statistique intéressante qui énervera beaucoup Daniel, le Shakhtar a eu je crois deux tiers de possession et à l'arrivée t'as un partout.
Oui.
Enfin bref, voilà.
J'ai vu une grosse partie. En plus, ils ont vraiment dominé.
Il y a eu 2-2.
Ça joue bien. Hein, ça joue au ballon.
Il y a eu 2-2. Oui, pardon. Exactement. Mais Hoffenheim.
Je sais ça. Rien.
Hoffenheim n'a pas les moyens de disputer les deux compétitions. Résultat, on va se retrouver avec un Bayern qui va avoir de l'avance assez vite. Et qui l'a montré encore ce week-end.
Ça va leur changer.
On va y venir à travers Renato Sanchez parce que je pense qu'il faut quand même évoquer ce joueur.
Bah vas-y.
Alors le Bayern
qui gagne 2-0 face à Schalke ce week-end.
Ça fait 17 rencontres consécutives que Schalke n'a pas réussi quoi que ce soit contre le Bayern. Alors après c'est pareil, les chiffres là-dessus sont vertigineux parce que les années passent et Schalke n'arrive plus à rien contre le Bayern. Victoire tranquille du Bayern. Je disais la semaine dernière, pour revenir sur mes avis tranchés passés parce que vous aimez ça, je disais la semaine dernière que le Bayern dégageait une impression de puissance. C'était encore vrai ce week-end. On pouvait se dire que Schalke pouvait déranger les Bavarois avec son système défensif, etc. Il n'en a rien été. Et alors le truc un peu dingue, c'est que Niko Kovac continue son turnover violent. J'emploie ce terme à dessein parce que vraiment, il n'hésite pas à sortir un Rames, il n'hésite pas à sortir un Thomas Müller, il n'hésite pas à sortir des joueurs essentiels, Goretzka, Thiago Alcantara sont pas systématiquement sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait contre Benfica dans la semaine? Il fait entrer en titulaire pour la première fois depuis des lustres. Renato Sanchez, Renato Marque, applaudi par la Lousse.
C'est vrai que c'est une image très très rare au Portugal quand on connaît le clubisme, etc. et ce genre de choses. Alors c'est un gamin du coin certes, mais il y a même un vice-président du club, un ancien vice-président du club qui a dit, moi jamais je me lèverai pour applaudir un joueur qui marque contre le Benfica. C'est très rare ce genre de choses.
Ça a fait du bruit dans la presse allemande, on a parlé de la Sanchez explosion.
parce que explosion en français. Hein. Tu suis Simonet?
Je passe toujours.
Non, c'est vrai, il est encore sur la blague de tout à l'heure, mais il a compris. Il a mis du temps à comprendre, du coup, mais ça a été.
Ça y est, il imagine la vue.
Non, mais ce qui est dingue. Alors, on va voir sur le
du chalet. Oui.
On va voir sur la longueur d'une saison. Mais ce qui est dingue, c'est que jusqu'ici, ça réussit vraiment à Kovac. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution finalement quand tu veux gérer toutes ces stars. Quand tu sors un Robben, quand tu sors un Ribéry pour faire jouer des jeunes, quand tu mets Rames sur le banc qui commence à grincer un peu, tu le fais jouer, ça marche. Renato n'avait pas joué depuis, encore une fois, il a été prêté, c'était une catastrophe.
Renato, c'est presque surréaliste.
Oui, mais alors, ça reste marqué un seul
depuis
match.
Le quart de finale de l'Euro face à la Pologne.
Le mec, il revient, on pensait qu'il était cramé, il y a mille polémiques autour de lui, tout, le gars, c'était impensable son retour.
Le départ. Ouais, alors attention, c'est pas justement une résurrection parce que dès la première minute, il a pas été bon. Il a fallu du temps aussi. Mais finalement, il a fait ce dont on avait besoin, c'est-à-dire gagner des duels, c'est-à-dire aller vers l'avant et donner carrément une impulsion finalement à l'équipe. Kovac n'a pas réédité cette expérience là ce week-end parce qu'il l'a fait jouer simplement dans les 5-10 dernières minutes. Mais s'il a cette vista et cet instinct là,
en gros, c'est un mec
saison,
qui est capable d'être totalement relancé, quoi.
Là, avec cet entraîneur-là,
ce joueur qui est apparu et disparu en un été,
va réapparaître. Et encore plus jeune, je crois 21 ans, quelque chose comme ça.
Il a 21 ans. Son âge, on le connaît pas bien.
Oui, il a 21 ans. Officiel, en tout cas.
Si ça a été la polémique, tu sais que c'est Giroud, hein, qui a balancé, qui a foutu le bordel avec ça.
Je crois que c'est Jérôme Bretagne.
Non, c'est Giroud pour le coup. Okay. Ouais. Ah ouais, ça fait un gros buzz au Portugal et ils ont trouvé les papiers. Tout va bien.
Alors, cela dit,
si c'est Giroud, ça va, parce qu'il est plus beaucoup étanche maintenant.
Cela dit, on tempérait les adversaires possibles avec Dortmund, qui quand même est dans les tout premiers, et Hoffenheim qui lui a plus de mal parce que évidemment il y a déjà deux défaites pour le championnat en 4 journées. En revanche, Nico, il y a un club qui est tout près du Bayern actuellement qu'on n'attendait pas du tout parce que l'an dernier il y avait une cohorte de vieux joueurs.
Alors on y
qui
va.
S'est renouvelé cette
ce
saison.
Ce sera l'occasion d'ailleurs de parler de ton cador qui concerne le Hertha. C'est du Hertha que tu veux parler.
Hertha Berlin.
Ah, il y a longtemps, les knackis,
deuxième du championnat.
Ah, j'avais dit un jambon, moi.
Oui, et aussi.
Ouais, c'est beaucoup de jambon.
C'est pas la même orthographe, mais.
Ouais, mais c'est pas du jambon mangeable.
C'est du jambon sous plastique.
Pas, enfin, on reparle de bouffe, c'est bon.
Le Hertha Berlin, alors, il y a eu un renouvellement très profond dans l'effectif. Il y a une quantité de jeunes, je pourrais même pas tous vous les citer. On va faire un focus tout de suite sur l'un d'entre eux, mais il y a une quantité de jeunes dans cette équipe. Ils ont gardé les deux trentenaires, Salomon Kalou, qui doit avoir 33.
Ah oui, il est toujours là-bas.
Veda Dimicevic, qui a 34, qui sont les deux attaquants de cette équipe. Ça fonctionne. Et derrière, il y a une cohorte de jeunes, un renouvellement fort avec l'entraîneur Pal Dardai. D'ailleurs, pour l'anecdote, très vite, qui était en concurrence avec Niko Kovac à l'époque, comme joueur en milieu de terrain.
D'accord.
Et ils vont se rencontrer, en fin de semaine. Et ça va être le choc du week-end parce que le Hertha est deuxième actuellement.
Cador, alors c'est qui?
Il y a un joueur qui fait forte impression, qui était nul l'année dernière parce qu'il avait joué, je crois, 700 et quelques minutes en marquant un but. C'est l'international slovaque Ondrej Duda, 23 ans.
Alors moi j'ai regardé ses stats, tu te dis quand tu vois ses stats à 23 ans, il est nul tout court. Hein.
Oui.
Même en Pologne, il a des stats bidons le mec. Sa meilleure saison c'est 8 buts.
Sauf que là, il a réussi.
T'es sûr qu'il est pas en train de nous faire une farjon?
Là, alors attends, parce qu'il a réussi un truc que jamais personne n'a réussi dans l'histoire du Hertha Berlin, qui est quand même un club historique, c'est une certitude, là-dessus je m'engage pas sans savoir. Duda, il a marqué 4 buts en 4 matchs. Personne n'a jamais fait ça dans toute l'histoire du Hertha Berlin.
Oui, mais des fois ça tombe comme ça.
Tu les vois faire quoi cette saison? T'es en train de nous dire que le Hertha va jouer les premiers rôles?
Je suis en train de dire qu'ils ont profondément changé leur système de jeu par rapport à l'an dernier. C'était très défensif. Cette année, c'est très offensif. Ils ont la deuxième meilleure attaque derrière le Bayern. Ils ont encaissé quelques buts. Mais pour l'instant, c'est la recette qui marche. Berlin deuxième. Ça surprend tout le monde en Allemagne.
Moi, j'attends juste la 10e journée pour qu'on reparle du Hertha Berlin.
Ondrej Duda.
Ton bidon, c'est qui?
Bidon, je veux focaliser moi sur Nabil Bentaleb à Schalke parce que
c'est le seul qui marque là-bas.
Ouais, alors attends. Schalke, pour l'instant, le jeune entraîneur Tedesco est protégé par les médias parce qu'il y a une hype, il y a une tendance comme ça à porter un peu au nu le jeune entraîneur comme Nagelsmann qui a 31 ans et Tedesco qui doit en avoir 33. On le protège pour l'instant. Je suis d'accord avec cette attitude de la part de nos confrères en Allemagne. Et du coup, si on protège l'entraîneur, alors que Schalke est dernier et bon dernier du championnat, il faut peut-être chercher quelques fautifs sur le terrain. Et Nabil Bentaleb, qui porte le numéro 10, qui est censé être un peu l'artiste de cette équipe, il voit passer les ballons au-dessus de sa tête. À Schalke, on n'a pas réussi du tout, je le disais la semaine dernière, à transformer l'équipe d'une équipe ultra défensive et une équipe de contre de l'an dernier à une équipe qui peut surprendre cette saison en championnat et aussi en Ligue des Champions. L'entraîneur pour l'instant est en échec, mais Ben Taleb, à mon sens, Nico, devrait être un joueur capable de prendre un peu le jeu à son compte.
En gros, de mettre de l'ordre dans cette équipe.
Mettre de l'ordre et surtout apporter du jeu dans cette équipe.
Mais si les ballons passent au-dessus, comme tu le dis, le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Eh ben, qu'il aille les chercher, les ballons.
Ah, bah, quand ça passe au-dessus, c'est pas évident.
Tedesco, c'est un mec dont on parle en Italie?
On en parlait la saison dernière.
Jean Lallemand.
Mais non.
Tedesco, ça veut dire l'allemand.
Ouais. C'est vrai. Après, il a une carte à jouer.
Non, c'est italien, il bosse en Allemagne, il s'appelle l'allemand.
Sans déconner, ça veut dire l'allemand.
Oui, Tedesco,
c'est l'allemand. Ah ouais. C'est Giovanni, son prénom, non?
Domenico.
Ah, c'est Giovanni et Giacomo étaient les deux frères.
C'est drôle, ça.
Dominique l'allemand.
Il a une carte à jouer quand même en Ligue des Champions, Nico. Ils sont dans le groupe de Porto. Ils ont fait un match décevant, là, à Schalke. Mais c'est un groupe relativement abordable. Et si Schalke passe, ce sera forcément une réussite pour lui.
T'allais dire quoi sur Tedesco, Simone, du coup?
Qu'il y avait deux frères, Giacomo et Giovanni Tedesco, qui jouaient il y a une dizaine d'années.
Ah voilà, c'est pour ça que j'avais Giovanni en tête.
Daniel. Et tu disais, il a la cote, lui, en Italie?
La saison dernière, avec ses bons résultats, oui. Cette année, on ne parle pas de sa situation d'échec. Mais la saison dernière, oui, on parlait un peu comme on est fier d'avoir cet entraîneur qui fait la surprise en Bundesliga. C'était très partisan. Un peu.
C'est curieux quand même hein, ce qui se passe avec Schalke. Hein. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Les mecs, ils font enfin une belle saison, ils finissent deuxième, et là, zéro point les mecs. Après,
une belle saison, mais pas sur le plan du jeu. C'est-à-dire qu'ils avaient bloqué le jeu. Ils partaient en contre, comme par ailleurs quelques années avant, Favre avait fait avec Mönchengladbach. Ça avait très bien marché dans une saison. Ils avaient gagné très souvent 1-0. Schalke, c'était un peu le même système. Ils gagnaient toujours avec un seul but d'écart par rapport à leur adversaire la saison dernière. Ils étaient deuxième par défaut. J'insiste, je me fais arracher la figure par les fans de Schalke sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a beaucoup et ça c'est tout à fait respectable, sauf qu'ils n'ont pas produit un beau jeu l'année dernière et ils n'arrivent pas aujourd'hui à changer de système. Or évidemment l'adversaire
c'est tout à fait respectable d'être
deuxième sans jouer.
C'est tout à fait respectable d'insulter la ville.
Merci Daniel.
Non, c'est respectable d'être nombreux,
surtout si vous êtes supporter de Schalke.
Non mais attends,
d'ailleurs à ce titre j'encourage les supporters de Benfica à ne pas oublier Nico Villas.
Le salaud.
Il doit se réveiller en sang.
N'importe quoi. Bon allez, nous reviendrons dans quelques instants. On va parler de l'Angleterre, bien sûr.
Je veux qu'à son réveil, le premier mot qu'il voit, salaud de portiste.
SRB. Voilà, SRB, bien entendu. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, David Lortolari, Fred Hermel, Simone Rovera sont là. Julien Laurence va nous rejoindre également dans quelques secondes, à moins qu'il soit déjà là d'ailleurs. Il arrive dans quelques instants. On va filer en Angleterre. Je vous donne quelques résultats de la sixième journée de Premier League. West Ham-Chelsea 0-0. Liverpool a battu Southampton 3-0. Manchester City s'est imposé 5-0 à Cardiff. Match nul entre Manchester United et Wolverhampton 1-1. Et Arsenal a battu Everton 2-0. On va commencer par Arsenal, justement. Les buteurs, Lacazette et Aubame. Cinquième victoire de suite pour Unai Emery. Quel but? Tu l'avais commenté ce match-là, toi, ou pas?
Non. Mais j'ai vu le but.
Ouais, et alors?
Ah bah il est magnifique.
Pas mal ce que fait Arsenal là.
Ouais, c'est pas mal ce que fait Arsenal. C'est un peu mieux ce que fait Arsenal. Ouais, effectivement, t'as l'impression que ça commence à imprimer un petit peu. Et puis
on va finir par croire que Emery, c'est pas une chèvre.
Ouais, mais c'est ça. Tu t'aperçois que fallait pas tout jeter dès le début, quoi. Tous ceux qui ont voulu, enfin Julien va sûrement nous en parler. Et le but de la canette est très très beau.
Ouais,
il rentre son pied droit. Ouais, il enroule et puis il le frappe très fort, quoi. Ouais.
Tiens, justement, puisqu'on parle d'Unai Emery. Interview aujourd'hui dans le Guardian de Petr Cech. Alors sur le Arsenal de Wenger, il dit le style d'Arsenal était plus important que de gagner des points et ce n'est pas comme ça qu'on gagne des championnats. Et sur Emery, il déclare, le gardien tchèque, il est très exigeant et c'est ça ce qui a changé. Arsenal est devenu un club plus exigeant, dit Cech sur le Arsenal de Unai Emery.
Il est en train de dire qu'avec Wenger, tu jouais, mais tu gagnais pas.
Non, je pense qu'en plus Wenger, il y avait une vraie fatigue et lassitude et de bout d'histoire depuis longtemps et une histoire qui a un peu trop traîné. Et là, il y a du sang frais, du sang neuf. Une méthode qui est appliquée. Je continue, j'ai toujours considéré qu'Emery était un très grand entraîneur. Après, souvent, l'expression des qualités d'un entraîneur, elle peut aussi dépendre d'un contexte et du cadre.
Et tout le temps, oui.
Et je pense qu'au PSG, dès le début, la planche était plus que sabonnée. Voilà.
Tiens, voilà. Julien Laurence est avec nous, Luc était.
Les médias ont tout fait pour le plomber parce qu'il a pas accordé les bonnes interviews aux bonnes personnes dès le début.
Ouais, mais c'est même pas les médias, c'est Daniel, le plus important, c'est à l'intérieur du groupe. Quand Emery t'a dit dans une interview au bout de 3 mois, je n'avais pas l'adhésion et donc j'ai compris qu'il fallait que je m'adapte.
Mais souvent l'intérieur d'un groupe, c'est fini, quoi. Il peut être gangréné par ce qui se dit dehors.
Julien Laurence est avec nous. Salut Julien.
Salut à tous.
Bon, salut, c'est bien, c'est bien là le trophée, les, enfin le trophée The Best là, la soirée à Londres, FIFA.
Voilà, c'est ça. Je rentre à la maison là après le Didier Deschamps, hein, qui a été nommé entraîneur de l'année, et puis quelques Français dans l'équipe type aussi, et puis Luka Modric qui gagne le trophée de meilleur joueur de l'année.
Alors, parle-nous de ce Arsenal. Alors, c'est vrai qu'il enchaîne les victoires là. Je suppose que tu as lu également les déclarations de Petr Cech dans le Guardian là, qui encense Unai Emery et tacle un petit peu Arsène Wenger. Qu'est-ce qui a changé finalement là depuis quelques matchs avec Emery?
Alors, bah, la tactique déjà, hein, le système de jeu, et puis surtout la tactique repartir de derrière, par exemple, coûte que coûte, hein, puisqu'on a vu Petr Cech notamment avec quelques relances à l'enquête, je dirais, où c'est vraiment très fébrile. Défensivement de à ce niveau-là de repartir de derrière, mais pourtant
ouais, ils sont beaucoup à faire ça hein, maintenant. Sarri le fait à Chelsea, arrive, oui, mais... Guardiola évidemment.
Ouais, mais Petr Cech a peut-être pas les pieds complètement pour
c'est
le
possible.
Faire.
C'est
voilà, c'est ça. Exactement. C'est là où la difficulté elle est. Je pense que Sokratis et Mustafi sont pas non plus les meilleurs défenseurs centraux balle au pied, mais ils continuent de leur demander de continuer à jouer de l'arrière, à repartir de derrière et à essayer de construire depuis leur but en fait, et puis après essayer de récupérer le ballon plus haut, le plus haut possible. La règle effectivement, mais tu l'as dit, Jurgen Klopp ou de Pep Guardiola, qui est quand il prend le ballon, t'as 5-7 secondes après pour essayer de remettre la pression pour la récupérer. Il y a plus d'intensité, il y a un peu plus de rythme aussi avec le ballon, mais c'est quand même pas parfait, hein, loin de là. Ils ont gagné 4 matchs d'affilée, mais c'est aussi contre Newcastle, contre Cardiff, contre West Ham et contre Everton. Et à chaque fois, ça a été un petit peu dans la douleur. Hein. À Newcastle, ils gagnent 2-1, mais la première mi-temps est très faible. Contre Cardiff, ils gagnent 3-2. Et si la Lacazette les sauve pas à la 82e, ils font match nul contre la pire équipe de la saison. Donc voilà, il y a du mieux, c'est sûr, par rapport notamment au premier match contre City et au deuxième contre Chelsea. Il y a du mieux par rapport à Wenger, ça c'est sûr. Mais c'est encore très loin d'être du niveau, bien sûr, de Liverpool, de Chelsea, mais même aussi de City, mais même aussi de Chelsea, je pense.
Le petit Guendouzi qui jouait pas, c'est un turnover ou c'est un vrai choix qui risque de se prolonger?
Non, c'est, je pense qu'il a beaucoup fait jouer depuis le début de la saison, et là ouais. Il voulait essayer Lucas Torreira, qui est un joueur différent de Guendouzi, qui est peut-être plus défensif, et c'est peut-être pas une surprise d'ailleurs que la première clean sheet d'Arsenal, ça arrive quand Lucas Torreira joue, parce que c'est vrai, il a ce côté uruguayen, rugueux, accrocheur devant la défense, qui a fait beaucoup de bien quand même dans le match contre Everton dimanche. Et Guendouzi, c'est plus le joueur élégant qui va jouer vers l'avant, qui va aimer avoir ce ballon, cette qualité de passe que peut-être Torreira n'a pas. Et comme Xhaka semble indéboulonnable, même si j'ai un peu de mal à le comprendre parfois, c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que Torreira a pensé cette touche un peu plus défensive que Guendouzi n'avait pas apporté jusqu'à maintenant.
Alors Julien, parle-nous également un peu de Manchester United, alors qui a fait match nul à Old Trafford face à Wolverhampton. Alors match qui avait débuté avec beaucoup d'émotions, Sir Alex Ferguson était de retour, lui qui avait été très opéré il y a quelques mois, il était dans le coma, etc. Alors ça fait 10 points après 6 journées, 3 victoires seulement pour Manchester United, qui sont à 8 points de Liverpool déjà. Et alors il y a eu ces déclarations de Paul Pogba qui a fait beaucoup de bruit en Angleterre. Évidemment, nous devrions montrer plus d'options offensives, mais je ne peux pas le dire car je suis un joueur, c'est ce que je pense, nous devons mieux bouger. Plus bouger, oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a encore embrouille entre Mourinho et Pogba ou quoi?
Ouais, il y a embrouille quand on pensait que justement ça s'était un petit peu calmé, qu'on pensait que sans forcément devenir les meilleurs amis du monde, mais en tout cas, vu qu'ils ont le même objectif, c'est celui de faire gagner United, que ça s'était un petit peu apaisé. Et puis Pogba ressort la bombe, la grenade lacrymogène, tout ce que tu veux l'appeler, après le match samedi, contre Wolverhampton, où c'est vrai qu'il sort. La remise en cause tactique, hein, je vois pas comment on peut l'appeler autrement, du plan de jeu de Mourinho contre Wolverhampton. C'est vrai qu'on a trouvé l'équipe de United qui avait été qui voulait rester compacte, mais t'avais pas vraiment l'impression qu'elle voulait jouer vers l'avant, qu'il y avait pas de rythme, il y avait pas de mouvement. C'était vraiment on reste solide pour pas prendre de but. Au final, ils mènent 1-0, un but d'ailleurs que Pogba crée pour Fred. Et puis après, c'est vrai que on a l'impression qu'ils avaient fermé la boutique et qu'ils voulaient plus attaquer et qu'ils essayaient de garder ce score alors qu'ils avaient marqué à la 25e minute, quoi. Et c'est vrai que Pogba, on l'a senti vraiment frustré après le match, d'où les déclarations, et qui, je pense, n'ont pas fait plaisir à mourir, ça c'est sûr.
Alors très vite, Julien, donne-nous ton cador et ton bidon du week-end en première ligue. Commence par ton cador, tiens, pour parler un peu de Manchester City d'ailleurs, ce sera l'occasion.
Ouais, c'est Riyad Mahrez, hein, parce que Riyad Mahrez qui marque 2 buts ce week-end contre Cardiff. Alors encore une fois, c'est Cardiff, mais le premier but notamment est un chef-d'œuvre collectif avec, je crois, 20 passes avant la frappe de Mahrez, où quasiment toute l'équipe touche le ballon. Et puis surtout, pour Mahrez, c'est bien parce qu'on sentait quand même qu'il avait un peu de mal à rentrer dans dans le jeu très sophistiqué de Pep, on voyait bien qu'il n'était pas là depuis longtemps et qu'il avait du mal à trouver un peu de repère. Donc ça va lui faire beaucoup de bien ce doublé à Riyad Mahrez. Et puis mon bidon du week-end, c'est Alexis Sanchez.
Bah lui, ça peut être le bidon depuis qu'il est à United, lui.
Il a disparu, le pauvre.
Ah ouais, lui.
Chapeau quoi. Ah ouais, c'est... mais alors, mais. Ouais, mais...
pour dire. Hein.
Non, mais est-ce que tu te souviens d'un joueur qui a été très bon dans un club et qui, après son transfert, est le fantôme du joueur qu'il a été? Parce que Alexis, je comprends pas comment il a pu être si bon à Arsenal pendant 3 ans et demi. Et puis, depuis son arrivée à Manchester United en janvier dernier, ça fait, je crois, 24 matchs de championnat, 2 buts. Deux buts, hein. Un joueur que tu payes 550 000 euros par semaine, c'est incroyable à quel point c'est son fond. Quoi. Et donc,
Je voulais connaître le premier choc concernant Manchester City, le premier gros match qu'ils vont avoir à jouer.
Contre en première ligue.
Quand et quel adversaire?
Non, pas contre quand. C'est pas contre quand.
Ah ouais, Liverpool, le 7 octobre.
Il est là, Julien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julien. Bonne soirée. Tiens, avant de nous quitter, on va accueillir Nicolas qui a gagné notre jeu. Salut, Nicolas.
Salut.
Bon, alors Nicolas, tu as gagné donc le jeu FIFA 19, mon gars. Bravo. T'as été tiré au sort.
Merci beaucoup.
Voilà. Avant, Daniel, il fait les gros yeux. Il dit ah ouais.
Et il a rien fait pour gagner.
Bah si, il a envoyé un SMS, il a envoyé FIFA, F-I-F-A.
Comme mais il a pas joué, il a pas mérité cette victoire au-delà du hasard.
Mais c'est pas, on mérite, tout n'est pas mérité dans cette vie.
Allez, faut qu'on y aille.
Je suis quelqu'un
Nicolas.
Qui veut
bravo
que
Nicolas.
Les choses merci se méritent beaucoup. Dans la vie. Je suis de l'école du mérite, monsieur. La République.
Et le meilleur moment de l'émission, c'est quand même
vive la République.
Ta blague sur le chalet suisse.
Allez, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Salut les drôles de dames. Salut Daniel. Salut Pierre. Bisous à toutes et à tous.